Bonjour, cher frère. Je suis heureux de vous voir tous comme d'habitude. Au début de ce mois et du mois de novembre, l'État de Louisiane a annulé une nouvelle loi exigeant que les 10 commandements soient affichés dans toutes les écoles publiques. Combien d'entre vous se souviennent d'avoir vu cela? De l'annonce de l'annulation de cette loi. À l'origine, la loi avait été proposée en juin de cette année et exigeait que les écoles publiques affichent les 10 commandements avant le mois de janvier de l'année suivante. En 25 ans, toutes les écoles publiques de l'État de Louisiane auraient donc dû afficher les 10 commandements à la vue de tous les élèves. Le juge qui a annulé la loi a déclaré que l'objectif manifestement religieux de cette loi était clair et ne pouvait pas être pris en compte dans le cadre du premier amendement. Il y avait pourtant de nombreux défenseurs dans l'État, dont le gouverneur de la Louisiane. Le gouverneur a fait valoir que les 10 commandements ne sont pas uniquement religieux. Il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de règles religieuses. Il a ajouté qu'ils avaient une signification historique et qu'ils promouvaient des valeurs morales parmi les élèves. De son point de vue, c'est quelque chose qui aurait aidé les élèves et qui aurait été utile aux élèves, aux enseignants, au personnel, à tout le monde, aux parents, lorsqu'ils sont dans les écoles, il aurait été utile pour tout le monde de voir ces lois listées. Le procureur général de Louisiane s'est rangé à l'avis du gouverneur et à l'intention de faire appel de cette décision. Il va donc se battre contre cette décision et contre le fait que le juge ait annulé la loi. Comme je l'ai indiqué, le juge a déclaré que la loi constituait une violation de la clause d'établissement du premier amendement. Cette clause est souvent évoquée lorsqu'il s'agit de décisions religieuses, d'observances religieuses ou d'ordonnances dans le domaine public ou gouvernemental. Le juge a déclaré que la loi violait la clause d'établissement, mais il a également indiqué que l'enseignement devait être l'objectif principal des écoles. Il a estimé que le fait d'exiger des élèves qu'ils regardent, qu'ils se contentent de regarder les textes religieux quotidiennement portait atteinte à leur liberté de religion. Il ne s'agit pas nécessairement de les obliger à regarder les règles, les 10 commandements devant simplement être affichés, mais il estime que le fait de les soumettre à ces règles quotidiennement porte atteinte à leur liberté religieuse. L'ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiles, est bien sûr prompte à bondir sur ce genre de décision. Elle est d'accord avec le juge pour dire que la loi est une violation flagrante de la clause d'établissement du premier amendement. Elle est même allée jusqu'à dire que le fait d'afficher ces lois dans les écoles, simplement pour que les gens puissent les voir, pour que les enfants puissent les voir, imposait des croyances religieuses aux élèves. Et la CLU n'était pas la seule. Malheureusement, des familles et des groupes de plusieurs confessions ont également soutenu que l'enseignement de la religion devait être dispensé à la maison. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être fait en public, cela devrait être fait à la maison, cela devrait être fait dans les églises, mais cela ne devrait pas être fait dans les écoles publiques. En lisant cela et en le parcourant, et peut-être même en l'entendant, j'ai l'impression que les gens ont quelque chose contre les 10 commandements. Qu'y a-t-il de si mauvais dans les 10 commandements? Qu'y a-t-il de mal à ce que des principes tels que l'adoration de Dieu ou la prise d'un jour de repos pour réfléchir à la semaine qui vient de s'écouler soient respectés? Ou qu'y a-t-il de mal à honorer ses parents, à ne pas mentir, à ne pas voler ou à ne pas tuer? Qu'y a-t-il de si mauvais dans un ensemble de 10 croyances seulement? Des convictions dont le juge ou le gouverneur a dit à l'origine qu'il pensait qu'elles auraient un bon impact sur les étudiants, sur le personnel, sur ceux qui les lisent. Qu'est-ce qui pousse les gens à s'opposer à des valeurs aussi fondamentales? Frères et sœurs, nous savons tous que les 10 commandements ne sont pas seulement un ensemble de règles. Nous savons tous, nous comprenons tous qu'ils sont très, très importants. Ces 10 lois, les 10 commandements, constituent le fondement de quelque chose de bien plus grand. bien plus que le gouverneur, le procureur général et tous ceux qui ont approuvé la publication de la loi. Peut-être quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils réalisent eux-mêmes. Aujourd'hui, mes frères, nous allons voir comment les 10 commandements sont la clé qui permet de mieux comprendre ce que Dieu fait, ce qu'il veut faire, ce qu'il désire pour toute l'humanité. Comme je l'ai dit, nous savons tous que nous devons respecter les 10 commandements. C'est quelque chose de fondamental pour être chrétien. Selon la façon dont vous êtes entré dans l'Église, c'est quelque chose qui vous a peut-être surpris. Cela m'a certainement surpris. Personnellement, je n'étais pas. Si on me l'avait demandé, je n'aurais pas été opposé aux 10 commandements avant d'entrer dans l'Église. Maintenant, êtes-vous opposé aux 10 commandements? Je ne me vois pas dire oui, j'y suis opposé. Mais je ne comprenais pas leur signification et je ne comprenais pas qu'ils étaient toujours en vigueur. Il y a donc une différence entre être indifférent aux 10 commandements et comprendre qu'ils sont toujours en vigueur, que Dieu attend toujours de nous que nous les observions. Il y a une différence entre les deux, et j'étais certainement plus du côté de l'indifférence. Un bel ensemble de règles, je suppose, si vous me demandez ce qu'il en est, mais je ne comprends pas que Dieu exige que nous les respections. Nous allons maintenant. Nous approchons des fêtes de fin d'année et vous avez peut-être vu dans un récent bulletin d'annonce que nous avons eu une séance de questions-réponses, et chaque année nous faisons de notre mieux pour essayer de préparer les frères à l'assaut, peut-être, de ce à quoi ils pourraient être confrontés lorsqu'ils iront voir leur famille. Il n'y a certainement rien de mal à passer du temps en famille à n'importe quel moment de l'année, mais nous avons tendance à le faire pendant les vacances. Les gens ont du temps libre, peuvent voyager, se réunir pour certaines traditions religieuses mondaines. Nous ne gardons rien de tout cela, bien sûr, mais c'est l'occasion pour nous de passer du temps en famille et nous approchons de cette période de l'année. Imaginez un membre de votre famille ou peut-être une connaissance ou un ami, ou quelqu'un que vous pourriez voir ici dans les prochains jours, les prochaines semaines, ou peut-être même dans l'avenir. Imaginez qu'il vous demande, pourquoi prenez-vous les commandements si au sérieux? Pourquoi accordez-vous tant d'importance aux 10 commandements? Je vous vois vivre comme vous le faites. Tu es tellement différent de ce que tu étais avant. Vos attitudes sont différentes. Vous faites des choses différentes. Vous avez changé de vie. Vous êtes tellement différent de ce que vous étiez auparavant. Et je sais que c'est en grande partie dû au fait que vous avez dit au fil des ans que vous vous efforciez d'obéir à Dieu et de respecter les commandements. Pourquoi prenez-vous les commandements si au sérieux? Seriez-vous prêt à répondre à cette question? Seriez-vous prêt à répondre à la question de ce membre de la famille? Passez au chapitre 3 de la première Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. Et allez à un verset classique qui présente ce point. 1 Pierre, chapitre 3. Nous lisons le verset 15. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans votre cœur. Sanctifiez donc Dieu dans vos cœurs. Ayez une perspective, une certaine perspective de Dieu, et ayez cette perspective et cette compréhension de Dieu à un niveau profond et sincère. Il est dit, soyez prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Dieu s'attend à ce que nous ayons une réponse lorsque les gens nous demandent pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Encore une fois, c'est une attente, mes frères. Dieu nous dit d'être prêts. Vous savez ce que c'est que d'être prêt pour quelque chose? C'est qu'on ne sait pas forcément que cela va arriver. On sait que cela va venir, mais on ne sait pas quand cela va venir. Mais devinez quoi? Vous êtes prêt. C'est ce que Dieu dit ici. Soyez prêts. Cela peut être difficile. Il peut être difficile d'être prêt quand les gens vous demandent, quand les gens nous demandent, pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Nous connaissons tous les versets. Nous connaissons toutes les raisons. Nous voulons simplement dire que c'est parce que, ou que c'est la bonne chose à faire. Et c'est vrai. Mais cela peut être difficile. Tous ces versets et concepts se mélangent dans notre tête. Nous avons la langue bien pendue. Nous ne savons pas exactement quoi dire. Nous voulons le dire parfaitement, nous ne voulons pas dire les mauvaises choses. Nous ne voulons pas en dire trop, nous ne voulons pas en dire trop peu. Il peut être difficile d'être prêt lorsque les gens nous demandent ce que nous croyons, et surtout de penser à quelque chose d'apparemment aussi fondamental que la raison pour laquelle nous prenons les commandements de Dieu si au sérieux. Mes frères, ce n'est pas forcément difficile. Cela ne doit pas être difficile. Ou du moins, cela ne doit pas être aussi difficile. Dieu ne nous demanderait pas de faire quelque chose qui ne peut pas être fait. Pourquoi dirait-il, soyez prêts à répondre? Pourquoi nous demanderait-il, nous attendrait-il, comme j'utilise ce terme, s'attendrait-il à ce que nous ayons une réponse si nous ne pouvons pas le faire, si cela ne peut pas être fait? Dieu n'attendrait pas cela de nous. Il est donc certainement possible d'être prêt à répondre. Être prêt à répondre non seulement à la question de savoir pourquoi nous gardons les commandements, pourquoi ils sont si importants pour nous, mais aussi à n'importe quelle doctrine. Toutes les vérités de Dieu. Pour être prêt, il faut connaître la Bible, connaître les Écritures, se familiariser avec les Écritures. La littérature de l'Église nous aide beaucoup, mes frères, à être prêts à manipuler les Écritures. Imaginez la difficulté ou le défi qu'il y aurait à simplement prendre la Bible et, en tant que laïque, ou peut-être quelqu'un de nouveau dans l'Église, ou même quelqu'un qui est dans l'Église depuis un certain temps, mais qui n'a peut-être eu que la Bible, imaginez la difficulté qu'il y aurait à discerner tous les versets, à mettre tous les versets ensemble pour élaborer les concepts, à essayer de comprendre les écritures qui sont écrites ici un peu, là un peu. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans la littérature. Tout le message que je vous donne aujourd'hui est basé sur les 10 commandements. Il est basé sur les livres des 10 commandements. Étudiez le livre. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait pour préparer ce message. J'ai étudié le livre. S'il est disponible pour moi, il est disponible pour vous. Il est divisé en chapitres, il y a des sous-titres, il y a des caractères gras, les versets sont listés. Tout est là pour vous préparer, comme cela a été le cas pour moi avec ce message. Tout est là pour vous préparer à répondre aux questions qui vous seront posées, en particulier sur ce sujet. Alors, étudiez le livre, étudiez-le avec une Bible ouverte. Connaître le livre. L'un de mes objectifs est de vous aider à comprendre les fondements des 10 commandements et la raison pour laquelle nous les respectons. Je veux que tu sois prêt. Je veux vous aider à être prêt. Mais je veux aussi vous faire une faveur. Je veux vous faire une autre faveur. Passez au chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 10. Je veux vous aider. Cela fait partie de mon travail de pasteur, de vous aider. Romains, chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Il est dit, ainsi donc, la foi vient de l'ouïe, et l'ouïe de la parole de Dieu. Le simple fait d'entendre ce message, pas seulement d'écouter, mais de l'entendre réellement, mes frères, à un niveau plus profond. Le simple fait d'entendre ce message, le simple fait de l'entendre construire à votre foi. Une partie de ma tâche, une partie de mon travail est de construire votre foi. Nous voulons prendre l'heure qui vient. Avec l'aide de Dieu, je veux prendre l'heure qui vient pour édifier votre foi sur ce sujet. pour édifier votre foi. Oui, vous savez tous qu'il faut respecter les 10 commandements. Vous savez tous qu'il faut le faire. Nous savons tous qu'il faut le faire. Mais je vais profiter de cette occasion pour édifier votre foi en la matière, pour vous aider à la comprendre à un niveau plus profond. Pourquoi dois-je observer les 10 commandements? Pourquoi est-ce important? Pourquoi Dieu veut-il que je le fasse? Frères et sœurs, nous savons quelque chose que ce juge de Louisiane, la CLU, ces familles de différentes religions qui se sont réunies, nous savons quelque chose qu'ils ne savent pas. Le simple fait que nous comprenions l'importance des 10 commandements est déjà beaucoup. Mais aujourd'hui, je veux nous aider à les comprendre à un niveau plus profond, plus significatif. Commençons donc. Commençons par les 10 commandements. Lisons les commandements. Allez à Exode 20. Allons aux 10 commandements, là où ils sont énumérés. Ils sont également énumérés dans Deutéronome 5, mais nous allons aller à Exode 20. Je vous ai dit d'aller à Exode 20 et il est tentant de sauter directement dans les commandements et de commencer à les lire. Mais nous passons à côté de beaucoup de choses si nous nous contentons d'aller directement aux commandements, si nous nous contentons de les lire. Il est préférable d'apprécier les circonstances dans lesquelles les commandements ont été donnés. Dans Exode 19, c'est juste un chapitre avant, dans Exode 19, nous voyons que Dieu le Père est descendu sur le mont Sinaï et qu'il y a eu cette démonstration élaborée. Allons à Exode 19. Je sais que vous êtes au 20, mais allons au 19e et reprenons au verset 18. Exode 19, 18. Il est dit, la montagne du Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel était descendu sur elle dans le feu. C'est donc la présence de Dieu. Dieu est présent sur terre. Il est présent sur le mont Sinaï. Il n'est pas au ciel sur son trône. Il est sur le mont Sinaï. La fumée monte comme la fumée d'une fournaise, poursuit le verset, et toute la montagne tremble. Et comme la voix de la trompette sonnait longuement, il y a donc eu un coup de trompette, et qu'elle était de plus en plus forte, Moïse parla et Dieu lui répondit paragraphe une voix. D'accord, donc la voix de Dieu. Le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, réitérant la présence de Dieu, et sur le sommet du mont, et le Seigneur appela Moïse sur le sommet du mont, et Moïse y monta. Imaginez donc cette scène, vous y êtes. Vous êtes l'une des personnes présentes. Vous voyez de la fumée, des flammes. Le sol sous vos pieds tremble. Il y a toutes sortes de bruits forts. Il y a un coup de trompette, un coup qui devient de plus en plus fort. C'est toute une scène. C'est toute une scène. Mes frères, c'est la scène. C'est ce qui se passait lorsque les 10 commandements ont été donnés. C'est très significatif. Comme nous allons le lire, il ne pouvait y avoir aucun doute quant à l'origine de ces commandements. Dieu était présent, juste au cas où vous pensiez que c'était une rumeur qu'il était présent. Le sol tremblait. Il y avait de la fumée, du feu, des coups de trompette. Elles étaient de plus en plus fortes. Dieu était présent. Telle est la scène. Telles sont les circonstances dans lesquelles les commandements ont été délivrés. Chapitre 20. Commençons par le début du chapitre. Nous lisons les commandements, l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu se présente donc à ses esclaves récemment libérés. Premièrement, vous n'aurez point de Dieu devant moi. Vous ne vous ferez point d'image taillée. Il s'agit du 2e commandement. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e et de la 4e génération. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la troisième et de la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment, et qui fait quoi? Gardez mes commandements. C'est tout le deuxième commandement. Septième verset, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui prend son nom en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Ce commandement est également plus long. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le septième, le jour du sabbat, et il l'a sanctifié. Le cinquième commandement, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Sixième commandement, tu ne tueras pas. Ensuite, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. C'est l'interdiction de mentir. Enfin, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui était ton prochain. Tout ce qui ne t'appartient pas. Frères et sœurs, il est utile de lire de temps en temps les commandements en détail comme je viens de le faire. Il est utile de les relire. Nous les connaissons tous. Mais Dieu a pris le temps de les écrire, de transmettre ses commandements avec tous leurs détails. Il est utile de les relire de temps en temps. Ces 10 lois représentent l'autorité divine, la justice divine, le respect divin, la responsabilité divine. Ces 10 lois ont influencé les sociétés et les systèmes juridiques tout au long de l'histoire. C'est pourquoi il est encore assez surprenant que certaines personnes choisissent de les rejeter. Le message d'aujourd'hui n'est pas, mon objectif n'est pas de passer en revue chacun des commandements. Je pourrais le faire et cela prendrait probablement plusieurs sermons. Vous pourriez prendre un commandement et en faire un sermon entier. Mon but n'est pas d'examiner ou d'approfondir chacun des commandements. Mon but est plutôt que vous voyiez et reconnaissiez les 10 commandements comme un ensemble de lois, comme un ensemble complet d'instructions ou d'attentes de la part de Dieu envers son peuple. Remarquez la structure des commandements. Si vous êtes dans l'Église de Dieu depuis un certain temps, vous avez déjà entendu cela. Les 4 premiers commandements portent sur notre relation avec Dieu. Dieu nous demande de n'adorer que lui. Il ne veut pas que nous adorions des idoles. Il veut que nous respections son nom et que nous n'utilisions pas son nom en vain, et que nous observions ce que l'on appelle le sabbat de l'Éternel, si vous le remarquez quand je le lis. C'est le sabbat de Dieu. Ces 4 premiers commandements se concentrent donc sur notre relation avec Dieu. Il reste donc 6 commandements. Et que font-ils? Ces commandements concernent nos relations avec les autres personnes. Ces commandements couvrent donc Dieu et l'homme. Ces 6-là parlent d'honorer ses parents. Ce sont des personnes. Vos parents sont des personnes. Adolescents, vous ne le pensez peut-être pas, mais nous sommes des personnes. Mais ne pas tuer les autres, ne pas commettre d'adultère ou tromper son conjoint, ne pas voler les autres, ne pas mentir et porter de faux témoignages, ne pas convoiter ce qui ne vous appartient pas. Si nous ne respectons pas ces 6 règles, Nous violons nos relations avec les autres. Il y a donc Dieu et l'homme qui sont couverts par les 10 commandements. Jésus a résumé les commandements d'une manière remarquable. Allez au chapitre 12 de l'évangile de Marc. Marc, chapitre 12. Jésus a résumé les commandements d'une manière intéressante. Marc 12. Reprenons au verset 28. Marc 12, 28. L'un des scribes s'approcha, les entendit raisonner ensemble et vit qu'il leur répondait bien. Christ est dans le groupe, il discute et il reconnaît que Christ donne des réponses, de bonnes réponses. J'ai donc cette question. C'est le scribe qui pense, j'ai une question à poser. Cet homme répond très bien aux questions. C'est quelque chose qui me préoccupe. C'est quelque chose qui me préoccupe et je veux connaître la réponse. Il a donc demandé au Christ, quel est le premier de tous les commandements? Nous avons donc ces 10 commandements. Quel est le commandement le plus important? Cette question le taraudait. Il voulait connaître la réponse. Il s'avère que c'est une bonne question. L'homme interroge donc directement Christ sur les 10 commandements, verset 29. Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements est, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. » Nous savons donc qu'il parle des 10 commandements. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » C'est le premier commandement. Il poursuit. Le second est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que celui-ci. L'homme a donc demandé quel était le premier commandement de tous et Christ lui a répondu en lui donnant un bonus. Il y en a deux, aimer Dieu et aimer l'homme. Verset 32, le scribe lui dit, eh bien, maître, tu as dit la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. L'homme a compris. Il a compris. Il a compris ce que Christ disait. Il a compris. Et qu'a dit Christ en conséquence? Quelle a été sa réponse? Jésus vit qu'il répondait discrètement, qu'il répondait correctement, qu'il était capable de comprendre, et il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » C'est quelque chose à entendre de la part de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Comprendre, mes frères, comprendre ces 10 lois, ces 10 lois qui peuvent être décomposées en amour de Dieu et amour du prochain, nous rapprochent du royaume de Dieu. Tout comme ce scribe. Comprendre, reconnaître la signification de ces 10 lois rapproche chacun de nous du royaume de Dieu. En fait, toute la Bible repose sur ces 10 lois. Matthieu 22. Matthieu 22. Nous venons de lire comment la compréhension des 10 commandements nous rapproche du royaume de Dieu, ce qui est tout à fait mon cas. Je suis sûr que vous l'êtes aussi. Mais toute la Bible est suspendue à ces 10 lois. Matthieu 22, nous reprenons au verset 35. Matthieu 22, 35. L'un d'eux, qui était docteur de la loi, lui adressa une question. Nous voyons au verset 34 qu'il s'agit d'un pharisien. D'accord, le prieur était donc un scribe. Peut-être était-ce le sadducéen dont il est dit qu'il a été réduit au silence. Mais il s'agit ici d'un pharisien qui se trouve être un juriste. Il avait aussi une question à poser à Jésus-Christ, mais il le tentait, comme le dit le verset 35, en disant, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Il s'agit donc de la même question, mais il l'aborde pour tenter Christ. Son motif n'était pas pur. Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même réponse. La même réponse qu'il a donnée à ce scribe. Verset 40, c'est sur ces deux commandements que repose toute la loi et tous les prophètes. Toute la Bible est composée de la loi et des prophètes, c'est ainsi qu'elle est divisée. Toute la Bible repose sur les 10 commandements. Pouvons-nous reconnaître ce que cela signifie? La Bible, avec toute son histoire, ses doctrines et ses prophéties, repose sur ces 10 lois. Si nous rejetons les 10 commandements, frères, nous rejetons le plan de Dieu. C'est clair. Frères et sœurs, voilà le genre de choses que nous pouvons dire aux membres de notre famille et à nos amis lorsqu'ils nous demandent pourquoi nous prenons le commandement si au sérieux. Il se peut que vous ne le fassiez pas aussi vigoureusement que je le fais ici derrière le pupitre. Vous pouvez être un peu plus gentil, un peu plus doux, mais les 10 commandements représentent le plan de Dieu. Toute la Bible est suspendue à ces commandements. La Bible utilise ce terme, toute la Bible est suspendue à ses commandements. Membres de la famille, amis, ces 10 commandements représentent l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est pourquoi je les respecte. C'est pourquoi ils sont si importants pour moi. Dieu lui-même a été directement impliqué dans la transmission de cette loi. Nous l'avons déjà vu dans l'Exode. Passons au Deutéronome. Deutéronome, chapitre 9. Deutéronome chapitre 9, quelque chose que je pense que certains d'entre nous ont compris. Deutéronome, chapitre 9, verset 10, l'Éternel me remit deux tables de pierre, et c'est là l'essentiel, écrit du doigt de Dieu. Dieu a écrit lui-même ses commandements. Il les a écrits personnellement. Sur eux furent écrites toutes les paroles que le Seigneur vous adressa sur la montagne, au milieu du feu, le jour de l'assemblée. Vous vous en souvenez? C'est ce que nous avons lu. Contrairement à d'autres textes bibliques, la Bible est un livre saint, c'est la parole de Dieu, elle est purifiée cette fois, contrairement à d'autres lois et textes bibliques écrits par des prophètes et d'autres hommes de Dieu. Dieu a pris le temps d'écrire lui-même les 10 commandements. Il les a écrits. Ce sont ses lois. Il les a transmises. Vous pouvez l'écrire, connaître la loi, c'est connaître Dieu, et connaître Dieu, c'est connaître sa loi. Je le répète, connaître la loi, c'est connaître Dieu, c'est connaître la loi. Les 10 commandements ne sont pas d'origine humaine, mes frères. Si nous rejetons les 10 commandements, toute personne qui les rejette, volontairement ou involontairement, rejette Dieu lui-même. En revanche, en acceptant les 10 commandements, nous acceptons Dieu lui-même. C'est pourquoi il est si regrettable de voir et d'entendre des gens réduire les 10 commandements à des lois dépassées ou à des lois réservées aux Juifs. Il s'agit d'une personne peut-être sincère, mais qui ne comprend pas exactement ce que représentent ces lois très importantes. Les 10 commandements existaient bien avant qu'ils ne soient introduits en Israël, et d'ailleurs, les Juifs font partie d'Israël. Souvent, les gens disent « les Juifs » pour parler d'Israël. Mais les 10 commandements existaient bien avant que Dieu ne les présente aux enfants d'Israël. Je suppose que c'est une autre occasion, une de ces occasions de répondre quand quelqu'un vous demande pourquoi vous prenez le commandement si au sérieux. Beaucoup croient à tort que les commandements ont été présentés à l'humanité dans le récit que nous avons lu sur le mont Sinaï. Ils pensent que c'est là que Dieu les a présentés, et qu'il les a présentés aux enfants d'Israël, et que c'est donc à eux que ces lois étaient destinées. Elles n'étaient pas destinées à tous les autres. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les commandements étaient destinés à guider l'ensemble de l'humanité des milliers d'années avant même la naissance de l'homme appelé Israël. Ces lois étaient en place. Passez au chapitre 4 de la Genèse. Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Il existe de très nombreux récits qui prouvent que les 10 commandements étaient en place avant le Sinaï. Je n'ai pas le temps de les passer tous en revue. Je vais en citer quelques-uns. Je vais en parcourir quelques-uns et, encore une fois, mon but est d'édifier votre foi et de vous aider à connaître le livre en ce qui concerne cette doctrine. Je vais en parcourir quelques-uns et, si le temps le permet, je vous en donnerai quelques-uns à noter et à étudier par vous-même. Genèse chapitre 4, Dieu parle à Caïn. Mais Genèse 4, verset 6. Genèse 4, 6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage s'assombrit-il? Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte. C'est à toi qu'il s'adressera, et c'est toi qui domineras sur lui. » Dieu avertit Caïn en lui disant, « Tout d'abord, tu dois contrôler tes émotions. J'ai entendu parler récemment du danger de se laisser emporter par ses émotions. Les émotions sont bonnes, mais il ne faut pas s'y laisser prendre. Mais contrôlez vos émotions et évitez le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la loi. Il fallait qu'il y ait une loi en place pour qu'il la transgresse. Caïn a enfreint le 6e commandement en tuant son frère. Si aucune loi n'interdisait le meurtre, comment Dieu pouvait-il légitimement le punir? Oh, je n'ai qu'à mettre fin à sa vie. Je n'aime pas ce qu'il a fait, alors je vais le tuer. Il n'y a pas de loi en place. Non, rien ne dit que je ne peux pas faire cela. Eh bien, manifestement, il y en avait une. Caïn a également convoité la relation d'Abel avec Dieu. Il était jaloux de sa relation avec Dieu. Il a également déshonoré ses parents en tuant son frère. Imaginez ce que ses parents ont ressenti lorsqu'ils ont appris que leur fils était un meurtrier et qu'il avait tué son jeune frère. Autre exemple, la Genèse 26. Remarquez que nous sommes toujours dans le livre de la Genèse. C'est une autre preuve que la loi était en place avant le mont Sinaï. Genèse 26. Rappelez-vous, la loi est arrivée plus tard ou a été introduite en Israël plus tard. Genèse 26, verset 5. Genèse 26, 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a gardé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Les commandements, les statuts et les lois comprenaient les 10 commandements. Abraham était le grand-père d'Israël. Jacob est devenu Israël. Abraham était son grand-père. C'est ce qui a été rapporté. Ce rapport est adressé à Isaac, le père d'Israël. Mais ce rapport sur le grand-père, sur Abraham, a été donné avant même que Jacob n'existe, avant même qu'Israël n'existe. Abraham a obéi au commandement de Dieu bien avant le Sinaï. Genèse 39. Ou, excusez-moi, Genèse 35. Genèse 35. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse. Genèse 35. Il s'agit de Jacob, l'homme qui allait devenir Israël, qui allait être rebaptisé Israël. Genèse 35. 2. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Levons-nous, montons à Bethel, et j'y bâtirai un autel à Dieu, le vrai Dieu, qui m'a exaucé au jour de ma détresse, et qui a été avec moi le jour où j'ai marché. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient en main, c'est-à-dire les idoles, et tous les pendants d'oreilles qu'ils avaient à l'oreille. Jacob les cacha sous le chêne qui était près de Sichem. Jacob a ordonné à sa famille de se débarrasser des idoles. L'adoration des idoles est une violation du deuxième commandement. Verset 39. Excusez-moi, chapitre 39, Genèse 39. Je le répète, nous n'avons pas quitté le livre de la Genèse. C'est le livre des commencements. Genèse 39. Voici l'un des descendants de Jacob ou d'Israël, Joseph. Genèse 39, verset 7. Genèse 39, verset 7. Après cela, la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Elle voulait coucher avec Joseph. Elle voulait que Joseph, la femme de Potiphar, se couche avec elle et soit intime avec elle. Joseph refusa, et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne veut pas de ce qui est avec moi dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qu'il possède. Tout d'abord, ce serait manquer de respect à mon maître que de faire une chose aussi vile. » Verset 9, « Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien caché que toi, parce que tu es sa femme. Ils sont mariés. Comment donc pourrais-je commettre cette grande méchanceté, coucher avec toi, la femme d'un autre homme, est une grande méchanceté, et pécher contre Dieu ? » Cet homme savait que commettre l'adultère violait l'un des commandements de Dieu. C'est le septième commandement, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Les enfants d'Israël ne sont plus en vue. Ils ne sont même pas encore en Égypte. Joseph est encore esclave. Les dix commandements étaient évidemment connus avant le Sinaï. Quelques-uns de plus à noter. Vous pouvez voir l'observation du sabbat. C'était avant le Sinaï. Nous nous trouvons finalement dans cet exemple dans le livre de l'Exode, mais c'est avant la scène du Sinaï. Les Israélites devaient ramasser la manne pendant 6 jours et se reposer le septième. Dieu n'avait pas encore donné les lois sur les tablettes. Il n'avait pas encore parlé à Moïse sur le mont Sinaï. Dans Genèse 15, il est intéressant de noter que la loi s'appliquait à toutes les nations. En ce qui concerne les Amorites, Dieu a dit à Abraham que leur péché n'était pas encore consommé. C'est dans la Genèse 15, 16. Leur péché n'est pas encore complet. Chaque fois que vous voyez un péché, mes frères, c'est un signe que la loi devait exister. Sinon, comment sauriez-vous qu'il s'agit d'un péché? Bien sûr, nous savons que les conditions du monde avant le déluge étaient manifestement pécheresses. Il est évident que les lois étaient enfreintes dans Genèse 6, 5. Dieu a qualifié la méchanceté humaine de grande. Il a dit qu'il y avait une grande méchanceté, et que les choses étaient continuellement mal faites. Dieu a détruit la planète entière par un déluge et a sauvé 8 personnes. Comment aurait-il pu faire cela en toute justice s'il n'y avait pas de commandement en place que les gens auraient pu enfreindre, s'il n'y avait pas d'attente de la part de Dieu? Comment Dieu pourrait-il détruire la terre s'il n'y avait pas de commandement contre de telles choses? Il est clair qu'il y en avait un. C'est évident. Les 10 commandements étaient manifestement, très manifestement en place avant le mont Sinaï. Et mes frères, il est si important, que les commandements sont toujours en place aujourd'hui. Ils sont toujours en place aujourd'hui. Ils étaient en place bien avant le mont Sinaï, et ils sont restés en place depuis. Et cela perturbe les gens. Les gens ne s'y retrouvent pas. Les 10 commandements sont toujours en vigueur. Je ne sais pas si quelqu'un les rejetterait catégoriquement et dirait qu'ils ne le sont pas, mais il ne croit pas que Dieu tient toujours les gens responsables de leur respect. Beaucoup pensent que les commandements ont été supprimés. Nous avons tous entendu ce terme, les commandements ont été supprimés. Et il cite des passages ou des écritures comme Romains 10, 4. Allons à Romains 10, 4. Romains 10, chapitre 4. C'est là, mes frères, qu'il est utile d'étudier les Écritures. En fin de compte, il est utile d'être guidé par Dieu et par son Esprit, car c'est vraiment ainsi que nous comprenons comment nous pouvons regarder les versets et les comprendre pour ce qu'ils signifient. Nous pouvons les comprendre tels que Dieu les a voulus et comment cela se fait-il? Eh bien, le même Esprit, qui est Dieu et qui a écrit les versets, est en nous. Il y a donc un lien. Nous sommes capables de le comprendre, mais allons à Romains 10, verset 4, où en fait commençons au début du chapitre, Romains 10, début du chapitre. Frères et sœurs, le désir de mon cœur, dans ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Dieu parle donc des Israélites, de ceux qui sont nés en Israël, car je leur apporte qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non de la connaissance. Nous pouvons avoir du zèle, mais ne pas avoir la connaissance, ne pas avoir la bonne compréhension, l'information qui mène à la compréhension. Kyrie. Il s'agit toujours d'Israël. Ignorant la justice de Dieu, ils s'y emploient pour établir leur propre justice. L'autosatisfaction. Ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Il est important de comprendre le contexte de ce verset que les gens citent pour affirmer que la loi a été supprimée. Car Christ est la fin. J'ai souligné le mot « fin » dans ma Bible. Et la fin de la loi pour la justice de tous ceux qui croient. Ils disent « Regardez, Christ est la fin de la loi. La loi a été supprimée. Ne comprenez-vous pas cela, membres de l'Église de Dieu restaurée, ministres? Ne comprenez-vous pas cela? Peut-être qu'un membre de votre famille pourrait vous dire cela. Christ est la fin de la loi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi penses-tu que c'est si important? Christ est la fin de la loi. Eh bien, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, même s'ils sont sincères. Fin, ils prennent le mot fin pour signifier qu'elle est abolie, que Christ a aboli la loi, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le mot fin ne signifie pas aboli. Ce mot fin nous dit, il signifie le but ou l'objectif de la loi. Et nous aussi, nous parlons comme cela, pas tout le temps, mais dans quel but? Vous dites à quelqu'un, bon, eh bien, tu fais cela, tu fais ceci ou cela. Dans quel but? Dans quel but? Quel est votre objectif? Quel est le but de ce que vous faites? Nous avons tous entendu cela et peut-être dit cela. Ce n'est donc pas une nouvelle façon infondée de comprendre le mot « fin ». Dans ce cas, il s'agit de nous dire et cela signifie le but ou l'objectif. Au lieu d'abolir la loi, son but ultime a été accompli en Christ ou par Christ, en Christ et par Christ. Il a donné l'exemple d'une obéissance parfaite et a révélé que la loi avait une intention spirituelle plus profonde. C'est pourquoi le chapitre a commencé à parler aux Israélites. Il y avait un pharisaïsme humain, et ce n'était pas correct, ce n'était pas juste. On nous dit que Christ est la fin, le but de cette loi, pour les Israélites de naissance ou de sang. En fin de compte, il s'agit de Jésus-Christ, de son rôle et de ce que Dieu voulait qu'il fasse. C'est une bonne compréhension du fait que Christ est la fin de la loi. Un autre verset cité comme preuve que les commandements ne sont plus en vigueur se trouve dans le chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Encore une fois, frères, ce que je viens de vous expliquer sur le fait que Christ est la fin de la loi, nous dit-on, c'est dans le livre. C'est dans le livre des 10 commandements. Tout comme c'était disponible pour moi, c'est disponible pour vous. Colossiens, chapitre 2. Un autre verset utilisé pour prétendre que la loi disparut. Colossiens, chapitre 2, verset 13. Commençons par là. Et vous, qui êtes morts dans vos péchés. C'est intéressant, nous parlons du péché. Et l'incirconcision de votre chair, il l'a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos offenses. D'accord, nous parlons toujours du péché, et maintenant nous voyons le pardon. Effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous et qui nous étaient contraires, il l'a écarté du chemin en la clouant à sa croix. Les 10 commandements cloués sur la croix. Nous avons tous entendu cette phrase qui provient d'une interprétation de ce verset. Dieu a-t-il cloué les 10 commandements à la croix ou sont-ils nécessaires au salut? C'est une question fondamentale. Eh bien, une fois de plus, nous devons comprendre ce qui est dit. Les ordonnances dont il est question ici se réfèrent aux lois cérémonielles de Dieu, et non aux lois morales de Dieu. Il est intéressant de noter qu'il s'agit d'ordonnances. C'est un mot différent de commandement. Nous avons lu les commandements. Maintenant, il est question d'ordonnance. Cela devrait au moins attirer notre attention. Non? Est-ce la même chose? Dans ce cas, il s'agit de loi cérémonielle et non de la loi morale de Dieu. Pas les 10 commandements. Les lois cérémonielles comprenaient les sacrifices d'animaux. Ces sacrifices faisaient référence au sacrifice ultime du Christ lorsqu'il a été cloué sur la croix. Il a été cloué à la croix en guise de sacrifice. Par conséquent, les lois sacrificielles, les lois qui étaient en place avant que Christ ne marche sur la terre et ne soit finalement tué et sacrifié, ces sacrifices humains ou sacrifices d'animaux, toute cette exigence a finalement été clouée à la croix lorsque Christ a été sacrifié. C'est très clair. Il n'est plus nécessaire de sacrifier des animaux comme exigence ou comme réaction au péché, car Christ l'a déjà fait. Il a été le sacrifice ultime. Son sacrifice a permis à Dieu de clouer sur la croix l'exigence des ordonnances sacrificielles. La mort du Christ pour nous ne signifie pas que nous pouvons déshonorer nos parents. Le fait que Christ soit mort, qu'il ait enduré toute cette douleur et cette souffrance ne signifie pas que nous puissions mentir aux gens, tuer des gens, tromper nos maris et tromper nos femmes. C'est de la folie de croire cela. Ce qui a été effacé, c'est le registre des péchés. Les péchés pour lesquels nous étions tenus responsables, voilà ce qui a été effacé. Pas la loi elle-même. Pas les 10 commandements. Très tôt, Dieu a fait une distinction entre les lois cérémonielles, les lavages, les peaux, les sacrifices et tous ces rituels. Il a fait une distinction entre ces lois. Ces lois étaient obligatoires. C'était une loi, mais c'était des lois cérémonielles. Il a fait la différence entre la loi cérémonielle et ce que j'appelle la loi morale. La loi la plus profonde. Les 10 commandements. La loi morale équivaut aux 10 commandements. Ce sont des principes éternels qui définissent le bien et le mal. Ils transcendent le fait de laver des peaux et de tuer des chèvres. Ces lois ont été énoncées par Dieu. Elles ont été écrites par son doigt. Finalement, ces lois ont été écrites dans nos cœurs. Dieu n'a pas écrit une loi sur le sacrifice d'un mouton dans nos cœurs. Ce n'est pas la loi qui est écrite dans nos cœurs. La loi qui est écrite dans nos cœurs est la loi la plus profonde. Ces lois sont contraignantes pour toute l'humanité. Tous les êtres humains sont censés adhérer à ces lois, aux lois morales les plus profondes. Les 10 commandements. Les lois cérémonielles, également connues sous le nom de loi de Moïse, vous avez peut-être entendu ce terme, Les lois cérémonielles ou lois de Moïse ont toujours été destinées à être temporaires. Passer à Deutéronome 31. Deutéronome 31. Deutéronome 31. Ces lois ont toujours été destinées, ces lois cérémonielles ont toujours été destinées à être temporaires. Deutéronome 31, verset 24. Deutéronome 31, 24. Lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de la loi, qui ai-je dit que c'était le seul à les avoir écrites? Qui, selon la Bible, les a écrites? Moïse. La loi de Moïse. Lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, jusqu'à ce qu'elles fussent terminées, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel, « Prends ce livre de la loi. » La loi de Moïse. Et mets-le aux côtés de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, ton Dieu, afin qu'il serve de témoignage contre toi. Les lois écrites par Moïse, la loi de Moïse, ont donc été placées sur le côté de l'arche. Si vous savez quelque chose à propos des 10 commandements dans l'arche, les 10 commandements étaient placés à l'intérieur de l'arche. Ainsi, les 10 commandements, cette morale, ces lois plus profondes, en fin de compte spirituelles, qui existaient depuis le début, qui sont éternelles, qui transcendent, ces lois se trouvaient à l'intérieur de l'arche. Vous savez, l'arche représentait la présence de Dieu et son trône. La façon dont elle était construite en était le modèle. Ces lois se trouvaient à l'intérieur de l'arche, tandis que la loi de Moïse se trouvait sur le côté de l'arche. Dieu a très clairement et très tôt fait la distinction entre la loi morale, les 10 commandements et la loi de Moïse. La loi morale reflète le caractère éternel de Dieu, tandis que la loi cérémonielle, aussi importante soit-elle, n'est que l'ombre des choses à venir. C'est très différent. Si l'on vous demande quelle est la différence, je répondrai, je croyais que la loi avait été supprimée. Je croyais que la loi avait disparu. Eh bien, vous avez raison. La loi a été supprimée. La loi cérémonielle a été supprimée. C'est ce qui a été supprimé. Vous avez raison. Christ est mort pour nous, et cela, ses lois ont été clouées sur la croix. C'est exact. Mais ce qui n'a pas été cloué à la croix, c'est l'attente de Dieu de respecter les 10 commandements. C'est aussi simple que cela. Christ n'est pas venu. Comme nous le lisons, Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu la magnifier. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu la magnifier. Lisons le verset 17. Matthieu 5, 17. Ne pensez pas. C'est Christ. Ne croyez pas que je sois venu détruire la loi. Apparemment, il savait. Dieu savait que les gens penseraient qu'il était venu pour détruire la loi. Pourquoi le dire autrement? Eh bien, il dit, non. Ne croyez pas que je sois venu pour faire cela. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Il pourrait y avoir cette idée, d'accord, vous avez ce Messie qui est venu, il a été prophétisé pour venir pendant des milliers d'années, et vous avez tous ces prophètes et tout ce qui a été écrit. On peut avoir l'idée que Christ va venir et essentiellement éliminer tout cela et changer tout cela. C'est en fait la façon dont de nombreux chrétiens professant la foi voient la Bible. Ils considèrent que Christ est venu et qu'il a mis fin à tout l'Ancien Testament. Christ dit, non, non, non. Ne pensez pas cela. Ne pensez pas cela. Ne pensez pas que je suis venu pour faire cela. Je suis venu pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, en vérité, Je vous le dis, jusqu'à ce que passe le ciel et la terre, il ne disparaîtra de la loi ni un ai ni un i, jusqu'à ce que tout soit accompli. Christ vient de nous dire très clairement qu'il n'est pas venu pour détruire la loi. Le mot « détruire » signifie « détruire ». Je ne suis pas venu pour la détruire, je suis venu pour l'accomplir. Accomplir signifie élever le niveau. Vous savez comment on monte en grade? Je pense à un jeu vidéo. On monte de niveau, on passe au niveau suivant. On passe au niveau suivant. On l'élève plus haut. Christ élève la loi, il ne la diminue pas, il ne la détruit pas. Il l'élève plus haut. C'est tellement logique. Jean 14. C'est tellement plus logique. Pourquoi Dieu viendrait-il détruire une loi qui vous dit de ne pas tuer les gens? Jean 14, 15. Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Eh bien, les commandements ont été supprimés. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance aux commandements est un acte et un signe d'amour. Rappelez-vous les quatre premiers commandements, montrez de l'amour envers qui? Envers Dieu. N'est-ce pas? Les six autres, les autres commandements, montrent l'amour envers l'homme. Au lieu d'être un ensemble de règles sévères, les commandements représentent le plus grand cadeau que Dieu ait jamais fait à l'humanité, Romains 7. Ils représentent le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité. Romains, chapitre 7, verset 10. Romains 7, 10, est le commandement qui a été ordonné à la vie. Les commandements apportent la vie. Ils n'apportent pas la mort. Ils apportent la vie. J'ai été trouvé mort, car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit et m'a fait mourir par lui. C'est pourquoi la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Tout ce qu'il dit, c'est que s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas reconnu tout l'impact du péché. Je n'aurais pas reconnu la folie d'ôter la vie à quelqu'un. Je n'aurais pas reconnu la folie de déshonorer mes parents, de ne pas respecter le jour du sabbat, de convoiter quelque chose qui ne m'appartient pas ou de mentir aux autres. Si la loi n'avait pas été présentée de cette manière, je n'aurais pas pleinement compris son impact. Je n'aurais pas compris que ces choses mènent à la mort. Les commandements deviennent un avertissement, nous disant de ne pas faire ces choses. C'est sain, c'est juste, c'est bon. Au lieu de nous restreindre, les commandements nous rendent libres. 1 Jean 5. Ils nous libèrent réellement. Ils ne nous restreignent pas. 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Car tel est l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Que nous gardons ses commandements, et ses commandements ne nous font pas de peine. Ils ne sont pas destinés à nous abattre. Ils ne sont pas destinés à nous affliger. Ils ne sont pas destinés à nous opprimer. Ils sont pour notre bien. Elles sont destinées à nous libérer. Vous pouvez vous demander, d'accord, mais comment quelque chose de restrictif, comment quelque chose qui est une loi, qui est destinée à nous restreindre ou qui peut sembler nous restreindre, comment cela peut-il nous rendre libres? C'est contre-intuitif. Cela ne semble pas correspondre. Romains 6. Oui, c'est contre-intuitif, en partie à cause du monde dans lequel nous vivons et de son manque de compréhension de l'objectif des commandements de Dieu et de ses lois. Romains 6, verset 15. Romains 6, 15. Il est dit, quel péché commettrions-nous donc, puisque nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, à Dieu ne plaise. Oh, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Eh bien, c'est aussi un malentendu. Nous ne sommes plus sous le coup de la loi. Nous sommes toujours sous la loi. Nous ne sommes plus sous le coup de la loi. Nous verrons un peu plus loin en quoi consiste cette peine. Vous ne savez pas. Verset 16. Que celui à qui vous cédez votre service pour obéir, c'est à lui que vous obéissez, soit que vous péchiez pour la mort, soit que vous obéissiez pour la justice, mais que Dieu en soit remercié. Dieu merci, vous étiez les esclaves du péché, mais vous avez obéi de tout cœur à la doctrine qui vous a été transmise. Cela inclut les 10 commandements. En étant libérés du péché, vous êtes devenus des serviteurs de la justice. Le péché, mes frères, nous a asservis. C'est le péché qui est restrictif, pas la loi. Le péché est restrictif. L'obéissance à la loi apporte la liberté. Satan renverse l'histoire. Oh, ces lois sont restrictives. Non, c'est l'inverse. Le péché est restrictif. Frères et sœurs, il faut parfois nous dire que nous ne pouvons pas faire quelque chose. N'importe quel parent vous le dira, n'importe quel bon parent, il faut parfois dire non. Prenons le 4e commandement. Pensez que nous parlons de ses avantages. Le respect du sabbat permet de se reposer et de se ressourcer chaque semaine. Il réduit l'épuisement professionnel et favorise le bien-être. Combien de fois entendons-nous parler de ces choses aujourd'hui? Il est utile de se réserver 24 heures par semaine, vous pouvez compter dessus, vous pouvez le réserver, tous les 7 jours. Ce 7e jour, vous pouvez compter sur le fait que vous pouvez vous reposer, que vous pouvez arrêter de faire toutes les choses que vous feriez normalement, et que vous pouvez vous reposer. Les familles peuvent se retrouver le jour du sabbat. J'ai 2 adolescents, ma femme, nous allons tous dans des directions différentes tout au long de la semaine, mais le sabbat est un moment sur lequel nous pouvons compter pour nous réunir, pour reprendre contact les uns avec les autres. Je peux réfléchir individuellement, je peux réfléchir à ma semaine d'un point de vue spirituel. Je peux me reposer physiquement. Tout le monde bénéficie d'une réduction du stress et d'une amélioration de la santé mentale. Aujourd'hui, on n'entend parler que de pleine conscience. On entend parler de la pleine conscience et de la réduction du stress. C'est un sujet populaire aujourd'hui. Tout le monde semble en parler. Nous ne faisons que rattraper ce que Dieu dit depuis des milliers d'années. Il en a fait l'un des commandements, celui de se reposer, de se ressourcer. Au lieu de voir le sabbat comme un non, tu ne peux pas, non, je ne peux pas, remplissez les blancs. Voyez-le comme un oui, je peux. Je peux passer 24 heures à me reposer, à réfléchir sur Dieu, à passer du temps avec mes frères, à passer du temps avec ma famille. Comme nous le voyons si clairement, à moins que Dieu ne l'exige, l'homme ne le fera pas. C'est pour notre bien. Deutéronome 5. Deutéronome 5. Les commandements sont une bénédiction. Deutéronome 5. Verset 29. Deutéronome 5, 29. Oh, s'il y avait en eux un cœur tel qu'ils me craignent et gardent toujours tous mes commandements, afin qu'il en soit toujours ainsi pour eux et pour leurs enfants. Dieu veut que tout aille bien pour nous. Il veut que nos enfants se portent bien. Il veut qu'il en soit toujours ainsi. Dieu est un parent aimant, il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Les 10 commandements nous offrent ce qu'il y a de mieux pour nous. Proverbe 3. Proverbe 3. Il n'est pas étonnant que Satan veuille nous faire croire que la loi a été supprimée. Si Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous, Satan dit, ou, je ne veux pas qu'il fasse cela. Proverbe 3. Proverbe, chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas ma loi. Mais que ton cœur garde mes commandements, car ils t'assureront la longévité des jours et une longue vie dans la paix. Dieu veut pour nous une longue vie et la paix. Cela passe par le respect de ses commandements. Que la miséricorde et la vérité ne vous abandonnent pas. Verset 3. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. En observant les commandements de Dieu, nous trouvons grâce aux yeux de Dieu et des hommes. Rappelez-vous que les quatre premiers sont une preuve d'amour envers Dieu. Les six derniers montrent l'amour envers l'homme. Si nous aimons Dieu et les hommes, si nous aimons notre prochain, nous trouverons grâce aux yeux des deux. Frères et sœurs, tout est lié. Tout est lié. C'est pourquoi Satan s'y oppose tant. C'est pourquoi il est si opposé à cela. C'est pourquoi il y a tant de malentendus à ce sujet. Le péché nous sépare de Dieu. Lorsque nous péchons, lorsque nous ne respectons pas les commandements, cela nous sépare de Dieu. Proverbe 28, restez ici dans les proverbes. Le péché nous sépare de Dieu. Dieu ne veut même pas entendre parler de nous. Proverbe 28, c'est un verset très dur que nous allons lire ici. Proverbe 28, 9. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même sera en abomination. Si je détourne mon oreille de la loi, ma prière est une abomination. Ce mot abomination signifie dégoûtant. Cherchez-le. Il signifie dégoûtant. Mes prières sont dégoûtantes pour Dieu si je détourne mon oreille de la loi. Qu'est-ce que c'est? La seule chose pire que d'avoir des prières dégoûtantes, mes frères, il n'y a pas beaucoup de choses pires que cela. La seule chose pire que d'avoir des prières dégoûtantes se trouve dans Romains 6. Revenons à Romains. Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Qu'y a-t-il de pire que d'avoir des prières jugées répugnantes? Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. La mort est à peu près la seule chose à laquelle je puisse penser qui pourrait être considérée comme pire que le fait d'avoir des prières jugées dégoûtantes. Quand on est mort, on ne peut plus prier du tout. Le salaire du péché, c'est la mort. En ignorant la loi, mes frères, nous méritons la mort. Je vous le dis, cela n'en vaut pas la peine. Cela n'en vaut pas la peine. Ce n'est tout simplement pas le cas. Ce n'est pas vrai. Je vais prendre un peu de temps. J'ai pensé que vous trouveriez cela amusant, c'est le cas. Cet exercice. Je vais lire. Je vais décrire deux endroits. Vous pouvez les voir comme deux nations, ou deux villes ou deux quartiers, et pendant que je lis, je veux que vous réfléchissiez à l'endroit où vous préféreriez vivre. Lequel de ces lieux que je décris, de ces nations, de ces quartiers ou de ces villes préféreriez-vous habiter? Dans cette première nation, il n'y a pas de reconnaissance de Dieu. Les gens rejettent toute autorité supérieure, n'ont pas de valeur commune et font preuve d'un égocentrisme endémique. Dans cette même nation, l'idolâtrie, le matérialisme et le consumérisme ont remplacé la spiritualité, et les gens idolâtrent la technologie, les célébrités et l'argent. Dans ce même quartier, ils ne respectent pas le nom de Dieu. Les citoyens sont remplis d'hypocrites qui manquent de respect à Dieu et utilisent son nom en vain. Dans cette même ville, aucun temps n'est consacré au repos ou à la réflexion sur Dieu. La vie est implacable. Elle se déroule à un rythme effréné. Les familles jonglent constamment avec le travail, l'école et d'autres responsabilités. Elles sont épuisées. Leurs relations sont tendues. Les individus se sentent dépassés et déconnectés les uns des autres. Dans cette même nation, il y a un mépris de l'autorité parentale. Les familles sont fragmentées et les aînés ne sont pas respectés. Les parents sont considérés comme inutiles et il n'y a que peu ou pas d'efforts pour honorer leur sagesse, leurs idées ou les sacrifices qu'ils ont faits pour leurs enfants. Dans ce même endroit, la violence est omniprésente et l'insécurité règne. La criminalité et les agressions sont monnaie courante. La confiance entre voisins s'érode. Les gens ne se font pas confiance. Parents, excusez-moi. La vie est insécurisée et la vie humaine est dévalorisée. Dans ce même quartier, il y a une normalisation de l'infidélité. C'est normal. L'engagement dans une relation est rare. L'adultère est socialement accepté. C'est l'une de ces choses. Les familles se détériorent. Lorsque la confiance entre les maris et les femmes est minée, cela a des conséquences à long terme pour les enfants. L'insécurité émotionnelle règne au sein de la famille et il est difficile de nouer des relations saines. Les enfants ne savent pas à quoi ressemble une bonne relation. L'instabilité familiale augmente, les foyers se brisent et la cohésion sociale s'affaiblit. Voulez-vous vivre dans un tel endroit? Dans une nation comme celle-ci? Ensuite, dans ce même lieu, il y a le vol et la corruption. Le vol, qu'il soit petit, au niveau des petits, au niveau des entreprises, au niveau du gouvernement, il est partout. Personne ne se fait confiance. Les gens comptent sur les systèmes de cambriolage et d'alarme et sur les contrats légaux pour que les gens respectent leurs paroles. Le mensonge et la tromperie sont omniprésents. Il y a de la malhonnêteté dans le monde des affaires et dans les médias. Il y a de la malhonnêteté dans les interactions personnelles. La confiance est érodée. Les gens sont sceptiques les uns envers les autres. En fait, le scepticisme est considéré comme une tactique de survie. Enfin, dans cette nation, dans cette ville, dans ce quartier, il y a l'envie. Il y a de la convoitise dans l'envie. L'envie est le moteur d'une grande partie de la dynamique sociale et économique au sein des relations. Le mécontentement et la rivalité prennent le pas sur l'unité et la coopération. Voudriez-vous vivre dans un tel endroit? C'est drôle, en lisant ce texte, j'ai l'impression que c'est le monde qui nous entoure. Tout ce que je viens de lire, c'est comme si c'était tiré directement des gros titres. Voudriez-vous vivre dans un tel endroit? Seriez-vous heureux dans un tel endroit? Ou préférez-vous vivre dans un endroit où tout le monde reconnaît qu'il existe une autorité supérieure, qu'il y a quelqu'un à qui nous devons rendre des comptes, que les principes de la foi et de la spiritualité ne sont pas seulement observés, mais qu'ils sont en fait intégrés dans le tissu social. Il y a un sens de l'objectif et de la responsabilité. Au lieu de l'idolâtrie, on donne la priorité aux relations et au caractère plutôt qu'aux possessions matérielles. L'accent n'est pas mis sur la richesse et le matérialisme. Les gens adorent le Créateur plutôt que la création. Le nom de Dieu est révéré. Il est évident dans les conversations publiques et privées. Les gens reconnaissent l'importance et le respect que Dieu mérite. Dans ce même pays, nous nous reposons chaque semaine et nous réfléchissons à Dieu. Cela fait partie de la culture. Tout est construit autour de cela. La nation entière, tout ce qui est fait, est construit autour de cette idée de repos, de réflexion et de respect de Dieu. Un temps est consacré au repos et à la réflexion spirituelle, et tout le monde est rajeuni et prêt à partir le premier jour de la semaine. Le travail s'arrête partout le septième jour. Les parents sont respectés. Les familles sont fortes. Il y a un respect mutuel entre les familles. Les anciens sont désormais honorés, on se tourne vers eux pour leur sagesse et leur expérience. La valeur qu'ils accordent à la vie est un gage de sécurité. Il n'y a pas de violence et le caractère sacré de la vie est profondément respecté. Il y a un engagement et une fidélité dans les relations. Les mariages sont désormais solides. Les époux et les épouses restent mariés. Ils ne se trompent pas l'un l'autre. Les enfants s'en rendent compte. C'est comme cela qu'est une mère, c'est comme cela qu'est un père. C'est comme cela qu'est un père. Je veux être une mère un jour. Je veux être un père un jour. L'honnêteté et l'intégrité sont omniprésentes, partout. Le vol et la corruption sont éliminés. La confiance règne dans les affaires et dans les relations personnelles. La vérité est valorisée dans tous les domaines de la vie. Il y a de la transparence et de l'équité. Et, bien sûr, dans cette même nation, il y a du contentement et de la générosité. Il y a de la gratitude. La générosité remplace l'envie et la rivalité. Il y a un esprit de soutien mutuel. Qui ne voudrait pas vivre dans un tel endroit, dans une telle nation? Frères et sœurs, c'est simplement décrire un lieu, une nation, une ville, un quartier. La deuxième description décrit simplement un lieu qui adhère aux 10 commandements. Le premier endroit que j'ai lu, l'endroit que nous pouvons regarder dans le monde et voir, c'est un endroit qui a rejeté les 10 commandements. Où préférez-vous vivre? Où voudriez-vous que vos enfants grandissent, que vos petits-enfants grandissent? L'obéissance à Dieu offre des bénédictions, une protection et une relation plus étroite avec lui. Accepter Dieu, c'est accepter ses lois, accepter la loi, c'est accepter Dieu. La désobéissance entraîne la séparation, l'instabilité et la souffrance. Restez simple. Restez simple. Les commandements reflètent le caractère de Dieu, qui est saint, juste et bon. J'ai un défi à vous proposer. Je l'appelle le défi des 10 jours. Vous savez probablement où je veux en venir, et ce n'est pas une coïncidence. Nous avons parlé des 10 commandements, j'ai donc un défi à relever en 10 jours. Prenez le prochain, ou prenez 10 jours pour étudier chaque commandement en profondeur, en vous concentrant sur un commandement par jour. Les commandements sont énumérés dans Exode 20. Nous les avons lus. Ils figurent également dans Deutéronome 5. Il n'est pas nécessaire que ce soit 10 jours d'affilée. J'irai doucement avec vous. Il n'est pas nécessaire de le faire 10 jours d'affilée, nous sommes tous très occupés, mais prenez 10 jours au cours des prochains mois pour étudier un commandement par jour. Commencez votre étude, peut-être au début de la journée, en lisant l'un des commandements, méditez sur chacun des mots des commandements. Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Recherchez les écritures qui s'y rapportent. Les écritures qui soutiennent davantage chacun de ces commandements. Réfléchissez à la manière dont chaque commandement s'applique à vous. Pensez à un monde où les gens suivent ce commandement et à un monde où ils ne le suivent pas. Demande à Dieu de te donner la sagesse nécessaire pour intégrer chacun de ces commandements dans ta vie. Ce sera une étude amusante. Parlez-en entre vous. Tenez un journal de votre expérience de ces 10 jours. Parlez entre vous des choses que vous avez apprises. Faites en sorte que ce soit amusant. Faites en sorte que cela tienne la route. Rappelez-vous que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils nous sont donnés pour notre bien et notre joie. Les 10 commandements nous apportent la liberté, et non la restriction. Ils nous protègent du mal et du chaos causés par le péché.